La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Avec les conseillers référendaires Géraldine Métral
et Emmanuel Chiron.
Bonjour Géraldine, merci d'être ici malgré une extinction de voix. Avant de faire un focus sur un arrêt récent que nous décrypterons ensemble, nous commençons par évoquer l'actualité de la Chambre sociale de la Cour de cassation avec deux décisions du 6 mars et du 14 février 2024. Dans le prolongement du podcast numéro 24 du mois de février 2024, dans lequel nous proposions un décryptage sur les transferts d'entreprises, évoquons un arrêt rendu le 6 mars 2024.
Dans cet arrêt, une commune avait repris la gestion directe de deux centres de loisirs, dont elle avait préalablement confié l'exploitation à une association. Cette reprise remplissait les conditions d'un transfert légal d'une entité économique autonome, au sens de l'article L1224.1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive du Conseil du 12 mars 2001.
Ce transfert présentait toutefois la spécificité d'intervenir entre une association, personne de droit privé, et une commune, personne de droit public.
Tout à fait. Mais ce point ne pose pas de difficulté. Le droit européen admet, d'une façon générale, que les opérations mettant en jeu des personnes morales de droit public entrent dans le champ de la directive du 12 mars 2001 lorsque les conditions requises sont réunies. Ainsi, quelle que soit la nature juridique du repreneur, il y a transfert d'une activité économique conservant son identité, peu important le mode de financement de l'activité en cause, son mode de gestion et les buts qu'elle poursuit. En droit interne, les conséquences de ce type de transfert sur les contrats de travail des personnels est prévue par l'article L1224.3 du Code du travail.
Donc le transfert des contrats de travail des salariés entre personnes de droit privé et personnes de droit public s'effectue de la même façon qu'entre deux personnes de droit privé.
Exactement. Les contrats de travail sont, dans les deux cas, transférés de plein droit. Toutefois, l'article L1224.3 du Code du travail prévoit qu'il appartient à la personne publique de proposer à ses salariés des contrats de droit public. Le texte oblige la personne publique à poursuivre le contrat de travail avec le salarié de l'entité reprise tant que celui-ci n'a pas pris position sur l'offre de nouveaux contrats.
Cela veut dire que le changement d'employeur n'est pas subordonné à l'acceptation ultérieure d'un contrat de droit public.
C'est cela, Emmanuel. Le changement d'employeur se réalise immédiatement dès le transfert de l'entité elle-même.
Mais Géraldine, si ce point ne pose pas difficulté, qu'apporte l'arrêt du 6 mars 2024 ?
L'arrêt répond à une question inédite concernant l'application de l'article L1224.3 du Code du travail. La Cour de cassation était en effet invitée à se prononcer sur le point de savoir si la personne publique, reprenant en régie une activité gérée par une personne de droit privé, était tenue de proposer un contrat de droit public à une salariée concernée par le transfert, même si l'exécution de son contrat se heurtait à une impossibilité juridique.
Il reste à savoir ce qu'était cette impossibilité juridique.
Cette impossibilité résultait, selon la commune, de ce que la salariée concernée occupait des fonctions de directrice de centre loisirs, accueillant des mineurs, sans être titulaire ni du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, ni de l'un des diplômes et expériences assimilées.
La question d'une impossibilité juridique s'était pourtant déjà posée dans une hypothèse de transfert du contrat de travail.
La Cour s'était en effet prononcée dans un arrêt du 17 avril 2019 à propos d'un étranger qui, avant transfert d'entreprise, avait conclu un contrat de travail nonobstant l'absence de titre l'autorisant à travailler. Mais la situation n'était pas comparable, et ce, pour deux raisons principales. D'abord, parce que, dans l'arrêt du 17 avril 2019, il ne s'agissait pas d'un transfert légal du contrat de travail, mais d'un transfert résultant de l'application d'une convention collective. Cette différence est importante car le transfert légal entraîne transfert de plein droit du contrat de travail et ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un transfert conventionnel. Ensuite, parce que l'illégalité de la situation d'un salarié non autorisé à travailler s'oppose à ce qu'il occupe un emploi, quel qu'il soit.
Alors que le contrat de travail de la salariée, qui n'était pas titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, n'est pas en lui-même irrégulier. En revanche, elle ne peut occuper la fonction que l'association lui avait initialement dévolue.
C'est tout à fait cela, Emmanuel. Dans l'arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation, rappelant que le transfert du contrat de travail s'opérait de plein droit, a considéré que l'absence de brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de diplôme équivalent ne pouvait pas faire obstacle au transfert du contrat de travail à la personne publique. La commune ne pouvait donc pas s'opposer au transfert et refuser de payer les salaires. Elle était tenue soit de proposer un contrat de travail de droit public, soit, si cela était juridiquement impossible pour elle, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de procéder le cas échéant à son licenciement en invoquant cette cause objective. Si elle décidait de licencier la salariée, il lui serait alors possible de mettre en cause l'ancien employeur, qui était à l'origine de l'irrégularité, pour qu'il garantisse toute condamnation prononcée à son égard au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
On comprend bien que la commune ne pouvait laisser la situation perdurer en cessant de payer le salaire alors que le contrat de travail n'avait pas été rompu.
Le second arrêt de notre actualité a été rendu le 14 février 2024 à propos de droit à la preuve.
Il s'agit d'un thème que nous avons régulièrement abordé à travers un podcast thématique numéro 16 du mois d'avril 2023 et deux podcasts numéro 20 du mois d'octobre et numéro 21 du mois de novembre 2023. Pourquoi alors revenir aujourd'hui sur le sujet ?
L'arrêt du 14 février 2024 apporte plusieurs précisions intéressantes. La première porte sur les conditions du recours à la vidéoprotection comme modalité de contrôle par l'employeur de l'activité de ses salariés.
À ce titre, il peut être intéressant de préciser que l'affaire avait donné lieu à un premier arrêt, publié, rendu le 10 novembre 2021, Pharmacie Mahorez.
Tout à fait, Emmanuel. Une salariée, travaillant dans une pharmacie située à Mayotte, a été licenciée par son employeur, qui l'accusait de voler de la marchandise, ce dont il s'était rendu compte en croisant les relevés de la caisse avec les enregistrements de vidéoprotection. Dans cette affaire, la Cour de cassation avait retenu que le système de surveillance constituait un mode de preuve illicite puisqu'il avait été détourné de sa finalité déclarée à la CNIL, à savoir la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise. Que les salariés n'avaient pas été informés qu'ils permettaient également de contrôler et de surveiller leur activité. Que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté sur l'utilisation de ce dispositif à cette fin de contrôle et que l'employeur l'avait utilisé afin de recueillir et d'exploiter des informations concernant personnellement une salariée.
Rappelons que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement d'images ou de paroles, à leur insu, quels qu'en soient les motifs, constitue un mode de preuve illicite. À partir du moment où le procédé ou l'outil de surveillance implique la collecte d'informations, telles que la collecte d'images résultant d'une vidéosurveillance, l'article L1222-4 du Code du travail introduit l'obligation d'information préalable du salarié.
En l'occurrence, l'illicéité de la preuve découlait, d'une part, du croisement des registres informatiques de vente et des résultats obtenus par l'exploitation de ces images qui constitue un traitement de données personnelles. Et d'autre part, du détournement de la finalité initiale du dispositif de vidéoprotection au profit du contrôle de l'activité de la salariée à la caisse. Sur ce point, il est important de relever que la Cour de cassation exerce un contrôle approfondi sur les déductions que les juges du fond tirent de leurs constatations quant au caractère licite ou illicite d'un moyen de preuve.
Donc, dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel de renvoi le 14 février 2024, le caractère illicite de la preuve était acquis. La cour d'appel de renvoi était donc invitée à procéder au contrôle qu'induit l'illicéité de la preuve.
Et c'est justement sur ce point que réside la deuxième série de précisions apportées par l'arrêt.
Les étapes de ce contrôle ont été rappelées dans le podcast thématique sur le droit à la preuve du mois d'avril 2023. Mais l'arrêt du 14 février 2024 en offre une illustration concrète. Rappelons qu'en présence d'une preuve illicite, le contrôle de sa recevabilité s'effectue en trois étapes. La première étape consiste à vérifier la légitimité du contrôle opéré par l'employeur.
Oui, mais cette première étape ne soulevait pas de difficultés particulières en l'espèce, car il existait plusieurs raisons concrètes justifiant le recours à la surveillance. Il existait des soupçons raisonnables de vol préexistant à la mise en place du contrôle résultant d'anomalies dans les stocks.
La deuxième étape, quant à elle, porte sur le caractère indispensable du recours au mode de preuve illicite.
Tout à fait. Et sur ce point, la Cour d'appel avait constaté que le relevé des journaux informatiques avait révélé 19 anomalies graves en moins de 2 semaines. Elle avait relevé que le visionnage des enregistrements avait permis d'écarter la piste des vols par des clients. De sorte que le croisement des séquences de vidéoprotection avec les relevés des journaux informatiques de vente s'imposait pour vérifier le détail des ventes par caisse.
La troisième étape, enfin, consiste à exercer un contrôle de proportionnalité.
En effet, et en l'espèce, la cour d'appel de renvoi devait, pour exercer ce contrôle de proportionnalité, procéder à la mise en balance circonstanciée du droit du salarié au respect de sa vie personnelle et du droit de son employeur à veiller, dans un contexte de disparition des stocks, au bon fonctionnement de l'entreprise et à la préservation de ses biens. Sur l'appréciation du caractère proportionné de l'atteinte à la vie personnelle au but poursuivi, après avoir rappelé que le contrôle avait été mis en place après les premières recherches infructueuses, la Cour d'appel a ainsi caractérisé. En premier lieu, la réduction de l'ampleur de l'intrusion dans la vie personnelle de la salariée dans le temps à la période de contrôle de 17 jours qui correspondait aux 2 semaines de travail sur lesquelles les anomalies de caisse avaient été constatées. Et en second lieu, la limitation de la diffusion des images à la seule personne chargée du pouvoir disciplinaire. L'intrusion dans la vie privée de la salariée a donc été réduite à ce qui était strictement nécessaire au but légitime poursuivi.
Voilà qui nous éclaire sur l'office des juges du fond qui doivent scrupuleusement respecter ces trois étapes en vérifiant si le contrôle était légitime, s'il était indispensable et s'il présentait un caractère proportionné. Mais la Cour de cassation exerce elle aussi un contrôle.
Effectivement, l'arrêt du 14 février 2024 apporte cette dernière précision. La Cour de cassation exerce un contrôle de la motivation par les juges du fond de la façon dont ils ont apprécié ces trois étapes. Compte tenu de ce contrôle, il est donc important, pour que la Cour de cassation puisse exercer son office, que la décision des juges du fond soit précise et circonstanciée. Et nous poursuivons La Sociale Le Mag avec notre décryptage.
Pour ce 26e numéro de La Sociale Le Mag, nous avons choisi de décrypter ensemble un arrêt du 13 mars 2024, relatif aux conséquences du refus, par le salarié déclaré inapte, d'un poste emportant modification de son contrat de travail sur la présomption de respect par l'employeur de son obligation de reclassement, présomption résultant de la proposition d'un poste.
Il s'agit donc de nouveau d'un arrêt relatif à l'inaptitude du salarié. Sujet que nous avons déjà abordé à plusieurs reprises lors des précédents podcasts, notamment en janvier 2023, numéro 13, en janvier 2024, numéro 23, et en février 2024, numéro 24.
L'actualité en ce domaine est en effet importante, car c'est un régime qui a beaucoup évolué à la suite de la loi du 8 août 2016. Et cet arrêt est intéressant, car il nous permet de revenir cette fois-ci sur les obligations imposées à l'employeur en matière de reclassement et sur leur articulation avec les prescriptions du médecin du travail.
C'est le Code du travail qui prévoit cette obligation de l'employeur.
Tout à fait. L'obligation de reclassement est prévue par l'article L1226-2 du Code du travail. Selon ce texte, après délivrance par le médecin du travail d'un avis d'inaptitude non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités.
Il faut toutefois rappeler que l'employeur est désormais dispensé de cette recherche dans le cas où l'avis d'inaptitude comporte la mention expresse que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Effectivement. Mais en dehors de cette hypothèse, l'employeur doit procéder à une recherche, non seulement au sein de l'entreprise, mais également au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient. Le cas échéant, situé sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le texte précise aussi que la proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, comme ces indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation, en le préparant à occuper un poste adapté.
Oui, car le médecin du travail ne peut prononcer un avis d'inaptitude qu'à l'issue de diligences spécifiques, permettant justement de définir précisément la capacité du salarié inapte à occuper un poste dans l'entreprise.
La prise en considération de cet avis d'inaptitude est d'autant plus nécessaire qu'elle a une autorité particulière, puisqu'il s'impose aux parties, en l'absence d'exercice du recours prévu à l'article L4624-7 du Code du travail, comme nous l'avons déjà vu lors du podcast de janvier 2023, décryptant notamment un arrêt du 7 décembre 2022.
En effet. Et c'est pourquoi la Cour de cassation rappelle régulièrement que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement. Cette précision incite d'ailleurs à un véritable dialogue entre le médecin du travail et l'employeur.
Mais cela peut avoir une incidence sur la relation contractuelle. L'employeur peut être conduit à proposer un poste modifiant les attributions du salarié, le lieu de travail, la rémunération ou même l'identité de l'employeur lorsqu'il s'agit d'un poste au sein d'un groupe.
Exactement. Et parfois, cela ne pose pas de difficulté, car l'employeur peut, dans son pouvoir de direction, imposer au salarié un simple changement des conditions de travail, comme l'affectation sur un poste relevant de sa qualification ou encore la mutation en vertu d'une clause de mobilité ou dans le même secteur géographique. En revanche, quand il s'agit d'un changement de fonction entraînant une rétrogradation, une mutation hors clause de mobilité ou en dehors du secteur géographique, il s'agit de modifications du contrat de travail, qui ne sont possibles qu'avec l'accord du salarié. C'est notamment le cas lorsque le poste suppose une diminution de la rémunération.
Et c'est justement dans cette hypothèse que se trouvait l'employeur dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 13 mars 2024.
Oui, Géraldine. Au terme de l'avis du médecin du travail, la salariée avait été déclarée inapte au poste et à tout poste à temps complet. Mais le médecin du travail avait également retenu une possibilité de reclassement sur un poste à mi-temps. L'employeur avait donc interrogé le médecin du travail sur la compatibilité à ses préconisations d'un tel poste et celui-ci n'avait émis aucune objection. Mais, compte tenu du maintien du taux horaire de la salariée, cette réduction de son temps de travail emportait une baisse de sa rémunération. Ce poste nécessitait donc l'accord de la salariée.
Or, la salariée a refusé cette proposition. Quelle possibilité pour l'employeur ?
De façon générale, la Cour de cassation décide qu'en cas de refus par le salarié d'une modification du contrat de travail, l'employeur doit soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure de licenciement.
Mais ici, l'employeur ne pouvait pas réaffecter la salariée sur le poste initial auquel elle avait été déclarée inapte. Car, à défaut, il aurait violé son obligation de sécurité en ne respectant pas les prescriptions du médecin du travail.
On voit donc qu'il restait à l'employeur soit la possibilité de proposer un autre poste, soit la possibilité de licencier la salariée. Mais dans cette hypothèse, le licenciement ne peut pas être fondé sur le seul refus par le salarié de la modification, refus qui est un droit.
Le licenciement ne pouvait donc être prononcé que si les conditions du licenciement pour inaptitude étaient réunies.
Et il faut préciser qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, la Cour de cassation considérait que le refus, par le salarié déclaré inapte, d'un poste de reclassement n'impliquait pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. L'employeur devait donc prouver qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Mais, comme nous l'avons également vu lors du podcast de février 2024, le législateur est intervenu sur ce point dans la loi du 8 août 2016.
Effectivement, l'article L1226-2-1 dispose maintenant que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-2 du Code du travail.
On comprend alors la question qui était posée par le pourvoi. Cette présomption est-elle applicable, y compris quand le salarié a refusé un poste de reclassement qui imposait une modification de son contrat de travail?
Dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel avait estimé que la salariée pouvait légitimement refuser le poste proposé, puisqu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail. Elle n'avait donc pas retenu le jeu de cette présomption, compte tenu de l'absence de caractère fautif du refus. Dans la mesure où l'employeur ne justifiait d'aucune autre recherche de reclassement, elle en avait déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais cette solution n'est pas approuvée par la Cour de cassation.
En effet, car le texte de l'article L1226-2-1 du Code du travail n'impose pas que la proposition de reclassement faite par l'employeur soit exclusive de toute modification du contrat de travail pour que son obligation soit réputée satisfaite. C'est pourquoi la Cour de cassation considère que la Cour d'appel, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait proposé à la salariée un poste qui était conforme aux préconisations du médecin du travail, a violé les dispositions de cet article.
Cela signifie donc qu'une proposition de reclassement faite par l'employeur, même si elle est légitimement refusée au motif qu'elle emporterait une modification du contrat de travail, est suffisante pour lui permettre de justifier du respect de son obligation et que le licenciement prononcé à la suite de ce refus est fondé.
Oui, mais à la condition, comme la Cour de cassation l'a précisé dans un arrêt du 26 janvier 2022, que l'employeur ait proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, et ce, au besoin, par la mise en œuvre d'autres mesures telles que mutation, aménagement, adaptation ou transformation de poste existant, ou enfin aménagement du temps de travail. D'ailleurs, dans l'arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation a relevé que le poste proposé était bien conforme aux préconisations du médecin du travail. Mais si tel est le cas, il importe effectivement peu qu'il entraîne une modification du contrat de travail.
Et pour faire le lien avec l'arrêt du 10 janvier 2024, commenté au podcast du mois de février 2024, on peut rappeler que le refus par le salarié de cette proposition ne dispensera pas l'employeur de reprendre le paiement des salaires à l'issue d'un délai d'un mois après l'avis d'inaptitude, et ce, jusqu'à la date du licenciement ou du reclassement effectif dans un autre poste.
Exactement. Il faut enfin ajouter que ces règles sont transposables aux inaptitudes consécutives à un accident ou à une maladie professionnelle, pour lesquelles le Code du travail prévoit, dans les mêmes termes, l'obligation de reclassement de l'employeur et la présomption de respect de cette obligation en cas de proposition d'un poste conforme.
C'est la fin de notre podcast. Les arrêts publiés au bulletin peuvent être retrouvés sur le site de la Cour de cassation avec les numéros de pourvoi 22 22 315, 22 23 073 et 22 18 758. Et les arrêts des 6 et 13 mars pourront être retrouvés à la lettre de la Chambre sociale numéro 25 de mars-avril 2024. Vous trouverez, par ailleurs, les références des arrêts cités dans ce podcast, notamment par le décryptage, sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Merci Emmanuel.
À bientôt Géraldine.